לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver au micro ce soir. Yael Bornstein et en technique avec moi, Michael Olschwang. Vous êtes sur Cannes en français et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Aujourd'hui, c'est le 1er avril 2024, le 178e jour de la guerre contre le Hamas. Je vous rappelle que ce flash qui ne dure que 5 minutes est disponible à la radio sur le 101.3 FM. Et on vous retrouve à 21h20 pour le rendez-vous Facebook Live sur la page de Cannes en français pour le journal complet. Le commandant de la force Al-Quds en Syrie et au Liban a été tué dans une attaque près de l'ambassade iranienne à Damas. Il s'agit de l'un des plus hauts responsables tués ces dernières années. Son nom, Hassan Madoy, qui a été tué dans une attaque audacieuse attribuée par les médias étrangers à Israël, à Damas, avec 4 autres personnes, dont des diplomates. Le bâtiment adjacent à l'ambassade iranienne et utilisé par celle-ci a été complètement détruit. On parlera dans l'édition de ce soir de cet événement majeur avec notre confrère Olivier Rafovitch. Par ailleurs, 913 suspects ont été arrêtés, dont 500 étaient des terroristes. Plus de 200 d'entre eux ont été éliminés. L'armée israélienne vient de clôturer son opération militaire à l'hôpital Shifa. Elle estime que le nouveau raid a été l'une des opérations les plus importantes de la guerre et estime que la probabilité que le Hamas utilise à nouveau un hôpital comme quartier général des terroristes est très improbable. Des documents de renseignement sur les otages ont été saisis lors de cette opération, ainsi que des documents des nouvelles horreurs du 7 octobre dernier. En ce 1er avril, où l'ordonnance temporaire autorisant l'exemption de la circonscription militaire a donc expiré, des centaines de manifestants de la faction de Jérusalem ont bloqué l'autoroute numéro 4 en direction du sud, dans la zone de l'intersection de Givat Shmuel. Ils ont bloqué de nombreux véhicules protestant contre les appels à un fardeau égal. Les manifestants scandent « Nous irons en prison et non à l'armée, nous mourrons et nous ne nous enrôlerons pas ». Un important embouteillage s'est formé sur place. La police a tenté d'évacuer les manifestants de la route pendant plusieurs heures. Une manifestation qui fait suite, je vous le rappelle, à la décision de la Cour suprême d'émettre une ordonnance provisoire historique qui stoppe net à partir d'aujourd'hui le transfert de fonds de soutien aux yeshivot pour les étudiants qui ne s'enrôlent pas. Aujourd'hui, comme mentionné, la décision du gouvernement de ne pas appliquer la loi sur les services de sécurité sur les étudiants de yeshiva a expiré. Et à ce stade, il n'y a pas de loi pour réglementer le statut spécial du secteur ultra-orthodoxe. En fait, selon la position de la conseillère juridique du gouvernement, Galiba Arav Mehara, à ce jour, l'État n'a donc plus d'autorité de ne pas recruter les ultra-orthodoxes. Le porte-parole de Tzal a informé que la structure qui a été touchée dans la baie d'Elat par un drone est la base navale de la ville, suite à l'annonce d'une cible aérienne suspecte tombée dans la région du golfe d'Elat la nuit dernière. La cible est tombée sur la base de Tzal à Elat. Il n'y a pas eu de victimes et des dégâts mineurs seulement ont été causés au bâtiment. Un lancement depuis l'Irak sur une technologie iranienne qui aurait traversé le territoire israélien depuis la Jordanie. L'agence de presse publique jordanienne Petra a rapporté que 8 largages d'aide humanitaire ont été effectués aujourd'hui dans le nord de la bande de Gaza. Selon le rapport, des avions de Jordanie, des États-Unis, d'Égypte, des Émirats, d'Allemagne, du Royaume-Uni ont participé au largage. Entre-temps, le ministre chypriote des Affaires étrangères, Konstantinos Kombos, a déclaré que 3 navires transportant des centaines de tonnes d'aide, s'approchaient des côtes de la bande de Gaza. Le Premier ministre Netanyahou s'est entretenu aujourd'hui avec le président de la coalition Ofir Katz et selon le communiqué du Likoud, il a demandé à s'assurer que la loi visant à fermer Al Jazeera en Israël soit approuvée à la Knesset en seconde et troisième lecture. La loi qui donne au gouvernement des pouvoirs temporaires afin d'empêcher les médias d'informations étrangers d'opérer en Israël. S'ils estiment qu'il porte atteinte à la sécurité nationale, a donc été adopté en seconde et en troisième lecture par le plénum de la Knesset. Les porte-paroles du Hamas ne jouiront pas de la liberté d'expression en Israël, c'est ce qu'a dit le communiqué. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, a évoqué aujourd'hui l'attaque de l'entourage du Premier ministre, selon laquelle la conseillère juridique du gouvernement créait une division dans la population concernant l'enrôlement des ultra-orthodoxes et déclarait que la seule chose qui crée une fracture au sein du peuple, c'est qu'il y a des gens qui s'enrôlent et d'autres qui ne s'enrôlent pas. Certains meurent, certains d'autres non. Il a noté, je cite, Netanyahou a dit un jour, ils donneront, ils recevront, ils ne donneront pas, ils ne recevront pas. Ceux qui s'enrôlent, qu'ils soient réguliers ou réservistes, devraient recevoir beaucoup plus de l'État. Et ceux qui ne s'enrôlent pas ne devraient rien recevoir. C'est ce qu'a dit Yair Lapid. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a quant à lui attaqué le ministre de la Défense, Yoav Gallant, lors d'une réunion de la faction religieuse sioniste, disant qu'il se demandait pourquoi il n'exprimait pas une opposition similaire concernant la loi de conscription sur, comme il l'avait présenté pour la révolution juridique. La météo demain plus chaud que d'habitude. On vous retrouve à 21h20 pour le journal complet. Merci de nous avoir suivis au micro. C'était Yael Bornstein, en technique Michael Olschwang. Shalom depuis Jérusalem.
Buenas noches para todos. Soy Eddie Junovich informando para Radio Reca en español y esta es la actualización informativa de las 9 de la noche. Las negociaciones para el acuerdo sobre la liberación de los secuestrados. Altos funcionarios israelíes conocedores de los detalles le contaron a nuestro medio que la delegación israelí en el Cairo presentó a los mediadores una posición más flexible con respecto al regreso de los residentes desplazados del norte de la Franja de Gaza a sus hogares. Una fuente política nos informó que si Hamás está interesado en un acuerdo, podemos seguir adelante. También hemos recorrido un largo camino esta vez. Hay posibilidades de progreso en los próximos días. Eliminación de importante comandante de Al-Quds en Siria. En un bombardeo al consulado iraní en Damasco, se informa sobre el asesinato del comandante de la fuerza Quds en Siria y el Líbano, Mohammad Riza Zaedi. El edificio bombardeado estaba ubicado cerca de la embajada iraní y era utilizado como cuartel militar de la fuerza Quds. Siria e Irán acusan a Israel del ataque. El embajador iraní Hossein Akbari dice que Teherán responderá con dureza. Según él, un avión furtivo israelí F-35 lanzó 6 misiles contra el edificio del consulado y en el ataque murieron entre 5 y 7 personas. El Parlamento aprueba el cierre de Al Jazeera. La Knesset aprobó en segunda y tercera lectura la ley que permite el cierre de un canal de medios extranjeros que perjudica la seguridad del Estado, ley conocida como Ley Al Jazeera. 71 miembros de la Knesset apoyaron el proyecto de ley frente a 10 opositores. El primer ministro Netanyahu acogió con satisfacción la legislación y dice que ha llegado el momento de retirar al portavoz de Hamás del Estado de Israel. Al Jazeera ya no transmitirá desde Israel. Actuaré inmediatamente de acuerdo con la nueva ley para detener su actividad, expresó Netanyahu. Operación en el cruce de Rafah. Altos funcionarios estadounidenses sostuvieron una conferencia telefónica con sus homólogos israelíes a primera hora de la tarde. La Casa Blanca anunció que la parte estadounidense estaba encabezada por el asesor de seguridad nacional del presidente Biden, Jake Sullivan. Estados Unidos exige que Israel le presente un plan aplicable para garantizar la seguridad de más de 1 millón de palestinos que han encontrado refugio en Rafah y sus alrededores antes de las fuerzas de defensa de Israel comiencen a operar en la zona. Finalización de operación militar en el hospital Shifa. Hoy la Fuerza de Defensa de Israel anunciaron el fin de la operación militar en el complejo hospitalario en Gaza. La operación duró 2 semanas, durante las cuales más de 200 terroristas fueron eliminados y más de 500 fueron arrestados, incluidos altos miembros de Hamás y otras organizaciones terroristas en la Franja de Gaza. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, expresó su satisfacción por los logros de la operación y afirmó que la base terrorista en el hospital de Shifa ha sido eliminada. Manifestación ultraortodoxa sobre autopista número 4. El sector ultraortodoxo Apelga Yerushalmi protestó por los llamamientos a reclutar estudiantes de la Yeshiva. luego de bloquear el tramo de la vía cercano al intercambio Barilán durante aproximadamente 2 horas, los manifestantes comenzaron a abandonar el lugar. La policía desplegó caballería en un intento de abrir la carretera y arrestó al menos a 6 manifestantes. Enfrentamiento con Hezbollah. Aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron a primera hora de la tarde una estructura militar de la organización terrorista en la zona de Anin, en el sur del Líbano. Anteriormente, las fuerzas de Tzal atacaron un almacén de armas y objetos terroristas en otras 2 zonas. En las últimas horas se han detectado varios lanzamientos desde territorio libanés hacia la zona de Ardov y la zona de Manara. No hubo víctimas. Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron las fuentes del tiroteo. Salud del primer ministro. Se espera que el primer ministro Netanyahu sea dado de alta del hospital mañana por la tarde, tras la operación de hernia a la que fue sometido ayer. Su oficina dijo que Netanyahu se siente muy bien y continúa realizando su rutina diaria desde el hospital, incluidas consultas y conversaciones. Hallazgo del cuerpo de un terrorista. Los restos de un terrorista que participó en la masacre del 7 de octubre fueron descubiertos cerca de la estación del tren de Sderot. Había municiones en su cuerpo y los saboteadores de la policía los detonaron en una explosión controlada. La estación de Sderot estuvo cerrada durante aproximadamente 2 horas. Hasta aquí la información actualizada del día lunes. Que tengan una noche agradable y tranquila. Shalom desde Yerushalayim.
ქართულენო ვარ რადიო კარეკა გამის მშვენივარი ახალიან ბები მიკროფონთან მე რამში ქართული ომის 78 დღე ახირ ამიტი ასე მოიხსენიებს ყველა ისრაელისა და ამ სოფლიოს სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროები ისრაელის წარმატებული სამხედრო ოპერაციის დროს განადგურებების გენერალ მუჰამედ რეზა ზიადის 20 ძალების მეთაურის განადგურება სირიაში. 5000 რაკეტა დღეში და ელექტროენერგიის გარეშე ყველაფერი მოსალოდნელია. ელექტროენერგია შესაძლებელია დიდხან არ იქნეს. თუ კი იმ შემთხვევაში ყველაფერზე დაიწყება რეაგირება ირანის თუ საერთოდ ხიზბალის მიერ. Религиური სამყარო, რომელმა 4 ტრასაზე გადაკეტა, უნდა ის თავის პრიორიტეტებს მოითხოვს. ისრაელი ერთ-ერთი მაღალი ჩინოვნიკი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ გადაცემულთა განთავისუფლების მოლაპარაკება, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ მოსადის წარმომადგენელი კაიროში იმყოფება, წინ მიიწევს. თუმცა კი საბედნიეროდ მათი ოჯახის წევრები, სადაც 1%-იც არ არის გადაცემულთა ოჯახის წევრები, ერუშალაიმში გაფიცვაში იმყოფებიან. ისინი სხვადასხვა განცხადებებს აკეთებენ პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის შენობის ირგვლივ. ნახოთ, როგორ დასრულდება ეს ყველაფერი. სირიაში თავდასხმის დოკუმენტები და ოპოზიციის ადამიანთა უფლებები სირიის ცენტრია ცხადებს, რომ სირიაში ირანის ელჩოდან თავდასხმის შედეგად სულ მცირე 6 ადამიანი დაიღუპა. სხვადასხვა წყაროების მოხსენიების დამტკიცება არ არის. დაშვებული იქნა გამოქვეყნება წუხელღა მითეილათის ყურეში ჩასული უპილოტო საფრენი აპარატი ქალაქში ცალის ბაზაზე დავარდა. საბედნიეროდ დაშავდა შენობა და სხვა არავინ. თუმცა იყო ისეთი გამოსხივება, რომ ძალიან დიდი შიში მქონდა, მომარეყო ბევრი დაღუპული. ომის 78 დღე რეპორტაჟი სირიიდან ისრაელმა თავდასხმა ირანის საელჩოზე დამასკოზე მიიტანა. 6 ადამიანი დაიღუპა. ოპოზიციის სისხლის უფლებათა სირიის ცენტრი ამტკიცებს, რომ დაესხნენ ირანელ მაღალ ჩინოსნებს. ვიყო ეს მაღალი დონის წარმომადგენელი, რომლის გამოც სწრაფი და ზუსტი სამხედრო ოპერაცია განხორციელდა. თუმცა თავდაპირველად 3 ცხედარი იყო ნანგრევები და ამოღებული. რაც შეეხება გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, არსებული გენერალი გახდა იარაღის შემომტანი სირიაში, რომელსაც შემდეგ ხამასი იყენებდა. რაც შეეხება ოპერაცია FTA-ს, ψήφις Παλαιστίνη Σάββατο Ποπουντάν σε Λιθαρμία Ντάτοβα Ήκη Παλαιστίνη Λεπή Μιούι την Έννη Νάγκρεβε Πιστάνα Χαβάτ Αρτσίσιες Ακμε Ήκμε τη Σατσίρου Άρικο Ραμετού Άρικο Αρσεμπουλή πως έτσι έπισκα όμως αντασίω ο Τσάλιαν Μπεύρη τερροριστή ταχλωβή τώρα σορμός δάτη τερροριστή ήκνα κανατ κουρεμπουλή ατάσι κατά πανελή ήκνα κάμω τζιέμπαση τα εσχολα περίτσι τα ποτά σερόμ σάιτρον τρόλ του φρινά βεβισεύτα βεσέντεκ ζεμογκάλιση σιγναλιζάτσια τα ακτιούτα καγκασία μοκμετα ζεμογκάλιση τα σαχλεύευση μάτσορις μαλκίτασι Δυσόνισε τα ραμόρτεν αυτάλι συντρόλοι και φύρει να εμπισεύτερης έτσις κάμω αμντρόλοι και συνάγκρευε εμπισεύτερον σχόρπης σε σαφέτ ινφορμάτσια που δασοβουλία τα κόλλα σαν τους συνομιλία ήραν ελλή μάγαλτσιν ως ανίσκα να την κουρεμπά. Ο πιλωτός απρενία παρατηρώ με τρες γαμητέρα και ήταν η λασίς με μαρτούλα βιλικά πριν να κάλα τι σας γόμπαζα ζεμόχτα σαν με την ερώτα άργο πιλάν σχόρπλη κρέβα σύφασα σαν όπως κάρεσε Ισραήλης έραγε που ματσάλεμα σαν χρατλήμανση χιζμπλαλής ομπιεκτσε πάρτο ξετεύα μόχτινέσα. Ευτή ήταν μαματγένης η φορμάτσι, σαν αερότητα έλεπεις καμένα την κουρεβέμα, ετρόλα ταύστα έσχα, ατερορίστου εσάμισνες, Ρασία, Αλφούρης, Ραϊόνση, σαν χατροντάτσουα, σεριοζουάτ, μνησμελοβάν τερορίστου λιμφροστρουκτούρεψε μουσάουτα. Τα τσέχεμε με τα ουρούπης με τα ουρθόμ, σας με συσάχελε πέβρικα, ντσαχείς, τρες καρκατάρι μας, χοντασχά, σαχείς, όπερα τσέπιτσάου, τάρντα, ιστάους καρκτου, ατκινόρς, χωάβα, μπατ, τάτο βέψ, σαβατον, όπως, σαρά τσέντεξ με κιάμ. Δα σας ιαμόνο ινφορματσίτ, και μσουδοβεβίτ, γαμε μσουδοβίτ, σαλόμ, Μιερουσαλάι.
سلام رادیو شما منو به محترم در یروشلایم خودر سکتی نویو شانزه مویان به دختران پنج دقیقه معلومات خو مرسانیم اخبران را سر میکنیم با واقعی ترکت که شوی گذشته در یونش دو گذشت که یک عرب جوان با کار دو مرد را یرادار کرد دوی آنها به حالات وزنین حالا در بیمار خانه هستند همچون روز گذشته در برشه و ترکت شده گذشت که در اونجا هم یک مردی سی ساله از کار زنی تروریست یرادا گردید تروریست ها در دو واقعی ها نابود کرده شدند این روز 178 روزی جنگ شمشروی تیموری خوی بختری اسرائیل حالا جنگ را تمام نکرده دوام دادنی هست تا که تشکلات حماس در سکتری از نیز کرده شوند و همچون همه به گروی گرفتگی آزاد کرده شوند وزارت مدافع معلوم کرد که سرژانت مایور ندف کوین 20 سال از حیف نابود شد به تا خاجره از ترک شدن جنگ 600 عسکرها قوی بختر اسرائیل گم کرد پرنده الکتریکی شروع گذشته از عراق برای اردن به ایلات افتاده در اونجا ترکید به یگان کس ضرر نرسد اما این ابیکتی که این پرنده الکتریکی رسید به قوی بخری حربی اسرائیل دخل دارد جنگ در شیفه بعد دو هفته درست تمام شد در اونجا چند صد تروریست دست گرفته شدن به تا حاضر آنها را ترور کرده ایستادن برای معلوماتی عنیق گرفتن چی پلانی تشکیلاتی حماس می باشد اسرائیل و شتاتهای متحد امریکا در همین وقت گفتوشین ها گذرانده ایستادن در برای جنگی که در رفیخ خاطر مرسان که شتاتهای متحد امریکا معلوم کرده بود که نمی خواهد که جنگ در رفیخ شده گذرد از این سبب همچون شتاتهای متحد امریکا وکیلان خود را به اسرائیل فرستند و از دیوم طرف اسرائیل وکیلان خود را به شتاتهای متحد امریکا فرستند هر طرف می خواست خواهش خود را بیان کردند. و برای از یک طرف اسرائیل می خواهد تشکیلات حماس را نیز کردن و شتاتهای متحد امریکا می خواهد که ساکنان سکتور غزه با آنها باید یگان ضرر نرسد گفتن لازم که اسرائیل هم حرکات های بسیار کرده ایستاده است که به ساکنان سکتور غزه یگان ضرر نرسد اما تشکیلات حماس برای خود را محافظت کردن آنها را پی پیش مانده خود را از پوست پنهان میکنند. در رفیق همچون چند راکت ها بسیار اسرائیل پرانده شد در آخر هفته گذشته، از این سبب میموشد از یک سبب هایی که اسرائیل در اونجا جنگ را دوام دادن هست. امروز فگوی هواری اسماعیل هنیه 57 ساله در اسرائیل که حیات دارد دست کرده شد. از روی معلومات اسماعیل هنیه سه هواری اسماعیل هنیه در اسرائیل حیات دارند و در خانه پولای بسیار و هر خیلی معلومات هایی که قوت میتید به تشکیلاتی خمس یا که آنها زیدی اسرائیل هستن یافت شد. خانه به خلاص آمد که وقت اینجا آرا آزاد کرده نمی شود. فرانسی امروز هم معلوم کرد که در نزدیکه ها $30 میلیون را دن پولی به تشکیلاتی اوندرا رساندنی هست. خاطر می رسند که اوندرا می باشد از یک تشکیلاتی آن که در سکتر از جای گیر بوده به ساکنان سکتر از یاردم رسانده استاده است. اما از این طرف گفتن لازم که در اداره این تشکیلات یک چندین بار یراق ها و گرانات ها یافته شد. در نزد الچخانی اسرائیل در یردنیا علاقه 8 روز بوده دیمونستراسیون شده استاده است و آنها طلب کرده استادن که اسرائیل باید جنگ را در سکتر از بس کند. اما از این طرف اسرائیل میخواهد بس کردن، اما 132 به گروی گرفته شدن حالا در دست تشکیلات حماس هستند و تشکیلات حماس آنها را آزاد کردن نیست تا که همه فلسطینیان از تورمه‌های اسرائیل آزاد کرده نشوند. به غیر از آن همچون دیمونستراسیون در یروشلایم علاقه 2 روز شده استاد است و آن اوهیلایی که به گروی گرفته شدن میخواهند که حکمرانی خاضر باید جای خود را به دیگر رهبر دید. اونها گفته ایستادن که تا که نیم سال گذشت و یگان حالا به گروی گرفته شدگان را آزاد کردن نتانشتون ممکن که دیگر رهبر این را به حل میکند این مسئله را. اون خدا خط پاگاه ستی دوزنیم به شماین باید چند معلومات ها میرسنیم. شلوم میگم شنایم.
Il est 21h. Vous êtes sur CAN, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs.
Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver au micro. Yael Bornstein en technique avec moi, Michael Olschwang. Vous êtes sur CAN en français. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Aujourd'hui, c'est le 1er avril 2024. C'est le 178e jour de la guerre contre le Hamas. Le commandant de la force Al-Quds en Syrie et au Liban a été tué dans une attaque près de l'ambassade iranienne à Damas. Il s'agit là de l'un des plus hauts responsables tués ces dernières années. Hassan Madoy, c'est son nom, il a été éliminé dans une attaque audacieuse et attribuée à Israël. À Damas, attribuée à Israël car les médias israéliens les médias étrangers ont attribué cette attaque à Israël, mais Israël, comme à chaque fois, ne reconnaît pas de responsabilité. Lui et 4 autres personnes, dont des diplomates, le bâtiment adjacent à l'ambassade iranienne et utilisé par celle-ci a été, quant à lui, complètement détruit. Mais on va parler de cet événement majeur avec notre confrère Olivier Rafovitch dans quelques instants. Dans le magazine de ce soir, nous entamerons le premier opus des podcasts que nous avons nommé Quoi de neuf, docteur Ariella? Ce soir, la docteur Ariella, urgentiste et directrice médicale du Magen David Adom France, nous parlera de comment traiter une hémorragie.
Le Flash Info de Cannes, la radio publique israélienne, présentée par Ariel Bornstein.
Analyse sécuritaire, politique et militaire, présentée par Olivier Rafovitch. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Yael.
Merci d'être avec nous ce soir pour une analyse sécuritaire qui est bien nécessaire, une opération. Je rappelle que vous êtes en réserve depuis 178 jours et vous ne pouvez pas nous donner beaucoup de détails sur cette attaque qui est, je le rappelle, uniquement attribuée à Israël. Mais est-ce que vous pouvez en tout cas nous parler de cet homme qui a été éliminé, Hassan Madoy? Est-ce que c'est vraiment l'opération d'élimination la plus importante depuis Qassem Soleimani lui-même?
Encore une fois, vous savez, l'Iran est aujourd'hui un problème pour de très nombreux pays dans la région du Moyen-Orient, et bien au-delà d'ailleurs. Et ce n'est pas par hasard que des pays menacés par l'Iran font appel à des alliances avec différents pays pour justement contrecarrer ces menaces iraniennes. On a vu des menaces iraniennes dans des pays du Moyen-Orient, dans les pays arabes sunnites, dits modérés, et ce qui explique en fait que chaque fois qu'il y a, entre guillemets, des frappes, des attaques ou des menaces contre les intérêts iraniens dans la région, eh bien, ceci est toujours attribué à Israël. Mais il est clair qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui, parce qu'il y a une menace iranienne, ont des intérêts à contrecarrer ces menaces-là. Maintenant, selon donc différentes sources qui circulent, effectivement, il s'agit de membres de la force Quds iranienne qui, d'après donc ces mêmes sources, auraient été visés dans cette frappe. Et ce sont des éléments importants de la force Quds, qui est en fait une force militaire de l'appareil d'État iranien à l'extérieur, pour en fait coordonner et frapper des cibles multiples dans la région qui sont pour l'Iran des ennemis considérés comme tels.
Alors, on a eu cette attaque sur la base navale d'Elat. Est-ce que c'est possible que Téhéran ait activé les milices en question depuis là-bas, sachant que c'est un drone qui a frappé la base navale, qu'il n'y a fort heureusement pas eu de blessés, comme on l'a dit tout à l'heure dans les titres, mais qu'on sait que c'est venu d'Irak, vraisemblablement de fabrication iranienne, et que ça a traversé, et là c'est un peu plus compliqué, le ciel de Jordanie.
Ce que nous pouvons dire, c'est que, et d'ailleurs l'a dit, je crois, ce soir, le porte-parole de l'armée israélienne, le général Daniel Hagari, c'est que cette frappe contre un objectif militaire en Israël est orientée, est, on va dire, sous la houppe ou la coupe de l'Iran. Et donc, effectivement, il y a ici, même si c'est quelque chose qui appartient à une milice pro-iranienne en territoire irakien, une adresse qui est l'Iran.
C'est tout ce que vous pouvez nous dire, Olivier, sur...
C'est déjà beaucoup, puisque c'est une frappe qui touche un objectif militaire israélien en territoire
israélien. Qui aurait pu, en l'occurrence, faire des blessés, voire des morts au sein de nos soldats.
Ce que je veux dire, c'est que nous sommes en train, au niveau de Tzahal, d'étudier et d'enquêter sur ce qui s'est passé, et de vérifier également ce qui s'est passé au niveau de la protection anti-missiles et anti-drones, pour qu'une telle attaque ne se reproduise pas. Mais il est clair que cette attaque est d'orientation iranienne.
Alors, je voudrais, avant de nous quitter, qu'on parle de l'opération Shifa dans le sud du pays, donc à Gaza. Une opération qui est clôturée cette fois.
Alors, c'est une opération extrêmement importante, Yael. Je voudrais vous permettre d'en parler un peu plus longuement, par contre.
Très volontiers.
Vous savez, pendant des mois et des mois, Israël et Tzahal ont indiqué à la communauté internationale, à nos alliés, que Shifa n'était pas seulement un hôpital, mais abritait en fait l'épicentre, le centre de commandement et de contrôle du Hamas dans la bande de Gaza, en tout cas dans le nord de la bande de Gaza, et qu'il fallait absolument tout faire pour extraire les terroristes et aller chercher là-bas et les trouver. Alors, dans un premier temps, on avait indiqué à l'avance que Tzal allait opérer dans Shifa. Ça a pris beaucoup de temps avant que Tzal opère, ce qui a permis en fait à l'époque aux terroristes de déguerpir, de partir, de se cacher. Il y avait aussi à l'époque des tunnels qui étaient toujours là, bien là, profonds dans le périmètre de l'hôpital, pas seulement sous l'hôpital. Et donc, à l'époque, il y a quelques mois, on avait quand même découvert des preuves de présence des otages qui avaient été découverts, malheureusement, une femme décédée, dans les pourtours, aux alentours de l'hôpital. Cette fois-ci, après avoir reçu du renseignement extrêmement précis et unique, une opération s'est mise en place avec le Shin Bet et Tzal, entre autres avec les unités de Nahal et de Shayetet Shloshesre, c'est-à-dire l'unité du commando de marine de l'armée israélienne. Mm-hmm. Et il y a eu en fait une opération, je dirais, ultra rapide dans son déclenchement et qui a surpris avec la ruse plus de 1000 terroristes. Écoutez bien, 1000 terroristes au moins cachés dans l'hôpital, plus de terroristes que de médecins dans l'hôpital Shifa, plus d'armes, de munitions et de bombes et de buts de mortier et d'autres éléments militaires et terroristes que de machines à soigner les gens. Et en fait, cette opération a fait qu'il y a eu plus de 200 terroristes qui ont été éliminés dans des combats pratiquement face à face. Il y a eu des tirs de mortier, des tirs de mitrailleuses de différentes chambres, des terroristes qui se cachaient dans les lits des malades, j'ai bien dans les lits des malades, dans la maternité, ouais, dans le centre d'imagerie médicale de Shifa, pardon. On a arrêté plus de 1000 personnes, et sur ces 1000 personnes, pour l'instant, 513 ont été clairement définis comme membres du Hamas et du Djihad islamique, dont des membres importants du Hamas qui ont été trouvés, d'autres se sont rendus aux forces de Tzal. Et ce qui est important à dire, c'est que dans cette opération, Tzal a opéré avec des arabophones pour avoir le contact avec les patients, avec les équipes médicales, et également avec des équipes médicales pour ensuite, et entre autres, pardon, transférer des dizaines de milliers de médicaments. L'opération a fait qu'il y a eu beaucoup de destruction et de mise à feu de la part des terroristes qui ont en fait utilisé des armes et des grenades pour en fait attaquer les forces de Tzal dans l'hôpital. On détruit l'hôpital en grande majorité. Et l'hôpital, en fait, malheureusement, est pratiquement dans certains endroits en ruine à cause du Hamas. Et ce qui est aujourd'hui, en fait, de nouveau paradoxal dans cette situation où Tzal se bat contre le Hamas et non pas contre les Palestiniens de Gaza, puisque c'est notre guerre contre le Hamas, c'est pas contre les Palestiniens, c'est que l'ennemi, en fait, continue à mentir et à vendre un narratif de fake news, un narratif qu'on aurait dit en français d'intox, où il va accuser Israël d'avoir voulu détruire un hôpital, comme si c'était l'intérêt d'Israël et de Tzal de s'occuper d'un hôpital, s'il était seulement un hôpital. Mais Shifa était en fait une grande caverne.
Un quartier général du terrorisme, clairement.
Mais avec des armes, avec des cochers de caverne.
Des armes dans les murs, dans les oreillers.
Mais avec une quantité gigantesque, Yael, d'armes. Vous savez, hier, je me suis rendu dans une base de Tzal, pas très loin de Tel Aviv, à Tzrifin, entre autres, où il y a, entre autres, toutes les armes qu'on a trouvées à Gaza, un peu partout. C'est une petite partie des armes. Et quand vous voyez ces armes, vous êtes, je dirais, stupéfaite par la quantité des armes. On voit que des balles de fusil Kalachnikov et de mitraillettes sont entrées dans des sacs de riz cachés ou dans des éléments qui appartiennent à l'UNRWA. Et tout cela réuni a fait que cette opération a surpris les terroristes. On a arrêté beaucoup de membres importants, on en a éliminé aussi pas mal, des gens importants du Hamas. Et ce soir, des images que je viens de voir à l'instant avant de vous avoir au téléphone montrent des images de Shifa détruit, et on accuse Israël d'avoir détruit l'hôpital. Non, c'est pas Israël qui a détruit l'hôpital Shifa, c'est le Hamas. Alors, dans cette guerre du narratif, dans cette guerre des images, peut-être que là, on a du mal, malheureusement, à promouvoir la réalité, mais la réalité est, Yael, et c'est important de le dire pour les auditeurs, en français entre autres, de Cannes, mais de par le monde, c'est que dans l'hôpital Shifa, il y avait une base du Hamas, je vous dis bien, plus de 1000 terroristes en armes. Imaginez-vous un hôpital en France, à Paris, avec 1000 hommes en armes, armés jusqu'aux dents, qui se cachent dans la maternité, et qui se baladent librement là-bas, qui utilisent n'importe quel cash, et en plus, 12 millions de shekels ont été trouvés, de l'argent terroriste, de l'argent sale, pour en fait fournir de l'argent, donner de l'argent aux terroristes du Hamas et du Djihad islamique, de l'argent évidemment qui n'arrive pas par la volonté des êtres de bonne volonté, comme on dit, mais arrive par le fait qu'il y a de l'argent qui circule, qui doit arriver pour aider les gens, pour aider les hôpitaux, et qui en fait est utilisé par le Hamas pour des fins de guerre, des fins de mort.
Avant de nous quitter, Olivier Rafovitch, la réunion virtuelle entre les représentants du gouvernement et les hauts responsables de l'administration américaine, et réunion qui a été dirigée par le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, vient de se terminer. On sait que les Américains voient d'un très mauvais œil la suite des événements vers Rafiar. Est-ce que on n'a pas moyen de les convaincre en leur montrant justement les images dont vous parlez? Ils connaissent évidemment la réalité sur le terrain. Ils se déplacent à cette fois ici. Ils voient les images qu'on leur montre, mais reste le problème de ce déplacement de population. Où vont aller aujourd'hui, dans une bande de Gaza qui est complètement détruite, le million de personnes qui se sont réfugiées à Rafiar?
D'abord, les relations entre Israël et les États-Unis sont des relations extrêmement étroites. Il est normal qu'entre amis, entre alliés, il y ait des transferts d'informations, des demandes d'informations sur des sujets extrêmement sensibles, et les Israéliens transmettent tout l'information que nous trouvons ici à nos alliés américains. C'est fondamental, c'est important dans ce dialogue stratégique que nous avons avec les Américains. Et s'il y a des questions et des questions qui vont être posées par rapport à Shifa, croyez-moi que nous avons tous les éléments pour pouvoir à la fois montrer ce qui s'est passé.
Non, je crois qu'on a prouvé ce qu'il fallait prouver par rapport à Shifa. Je demande pour, par rapport à Rafiar, la suite des événements, quelle est la solution?
Par rapport à Rafiar, il est clair que l'armée israélienne fera ce qui doit être fait par rapport à la directive qui sera donnée par l'échelon politique israélien, qui est entre autres de continuer à tout faire pour démonter le Hamas, également à tout faire pour libérer les otages et assurer également que la population palestinienne soit épargnée des combats. Et ceci est pour nous également une priorité absolue. Ce n'est pas une guerre contre les Palestiniens de la bande de Gaza, c'est une guerre contre le Hamas. Par contre, le Hamas, lui, veut que les Palestiniens, femmes et enfants et vieillards soient impliqués dans cette guerre, nous ferons tout pour que ce ne soit pas le cas. Encore une fois, il y a au-delà de la guerre, une guerre dans la guerre, une guerre d'information, une guerre du narratif. Et dans cette guerre-là, il y a beaucoup d'intox, je dis beaucoup de fake news. Mais l'État d'Israël est ici dans une guerre qui est sa guerre contre le Hamas, qui, je rappelle, dans son ADN, a but la destruction, la finitude de l'État juif et son remplacement par un grand califat. Et ceci n'arrivera pas hier.
Non, ceci n'arrivera pas. Et pendant qu'on parle des sirènes qui retentissent à la frontière, enfin sur le territoire israélien, à la frontière libanaise, on est loin d'avoir terminé de se parler. Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour cette analyse. On vous retrouve très bientôt sur Cannes en français.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui, 1er avril, je vous parlais de cette ordonnance temporaire qui autorisait l'exemption de la conscription militaire. Aujourd'hui, 1er avril, elle a expiré. Des centaines de manifestants de la faction de Jérusalem ont bloqué l'autoroute numéro 4 en direction du sud dans la zone de l'intersection de Givat Shmuel près de Bnei Brak à la circulation des véhicules, protestant contre les appels à l'égalité. Les manifestants ont scandé « En prison et non à l'armée, nous mourrons et nous ne nous enrôlerons pas dans l'armée ». Un important embouteillage s'est formé sur place. La police a tenté d'évacuer les manifestants pendant de nombreuses heures. La manifestation fait suite, je vous le rappelle, à cette décision de la Haute Cour de justice de mettre une ordonnance provisoire historique qui stoppe net à partir d'aujourd'hui le transfert de fonds de soutien aux yeshivot pour les étudiants qui ne s'enrôlent pas à l'armée. Aujourd'hui, comme mentionné, la décision du gouvernement de ne pas appliquer la loi sur les services de sécurité sur les étudiants de yeshivot a expiré et il n'y a pas de loi à ce stade pour réglementer leur statut spécial. Tout dans ce que ça veut dire, en fait, c'est que la position de la conseillère juridique du gouvernement, Gali Barav Mihra, à ce jour, l'État n'a plus d'autorité de ne pas recruter des ultra-orthodoxes. Le porte-parole de Tzal a informé que la structure qui avait été touchée dans la baie d'Elat, on en parlait il y a un instant, par un drone, et donc la base navale d'Elat, suite à l'annonce d'une cible aérienne suspecte tombée dans la région du golfe d'Elat la nuit dernière. La cible est tombée sur la base de Tzal à Elat. Il n'y a pas eu victime et de légers dégâts seulement ont été causés au bâtiment. C'est ce qu'a indiqué l'armée israélienne qui enquête sur l'incident après que le drone lancé par les milices en Irak a traversé le territoire israélien depuis la Jordanie, vraisemblablement de technologie iranienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est entretenu aujourd'hui avec le président de la coalition Ofir Katz afin de demander à s'assurer que la loi visant à fermer Al Jazeera en Israël soit approuvée ce soir à la Knesset en seconde et troisième lecture. La loi qui donne au gouvernement des pouvoirs temporaires pour empêcher les médias d'information étrangers d'opérer en Israël s'il estime qu'il porte atteinte à la sécurité nationale. La loi a donc été adoptée en seconde et troisième lecture et les porte-paroles du Hamas ne jouiront pas de liberté d'expression en Israël. Al Jazeera sera fermé dans les prochains jours. C'est ce dont s'est félicité aujourd'hui le ministre des Communications Shlomo Kari après l'adoption de la loi qui habilite le ministre des Communications à ordonner aux fournisseurs de contenu de cesser de diffuser la chaîne en question et a ordonné la fermeture immédiate des bureaux israéliens de la chaîne, a ordonné la confiscation de l'équipement de la chaîne et la mise hors ligne du site web si le serveur est physiquement situé en Israël ou même a bloqué de toute autre manière l'accès au site internet. Des ordonnances qui seront valables pendant au moins 45 jours et renouvelables pour des périodes supplémentaires de 45 jours selon les termes du projet de loi. Tout ordre de fermeture d'une chaîne d'information étrangère doit être soumis dans les 24 heures à l'examen judiciaire du président d'un tribunal qui doit alors décider dans les 3 jours s'il souhaite ou non modifier ou raccourcir la durée de l'ordre. La législation a donc été adoptée en première lecture par la Knesset en février dernier et approuvée aujourd'hui en seconde et troisième lecture à la suite d'un long débat au sein de la Commission de la Sécurité nationale de la Knesset. Yair Lapid, le chef du parti Yesh Atid et surtout chef de l'opposition, a évoqué aujourd'hui l'attaque de l'entourage du Premier ministre selon laquelle la conseillère juridique du gouvernement, crée une division au sein de la population en ce qui concerne l'enrôlement des ultra-orthodoxes, déclarant que la seule chose qui crée une fracture au sein du peuple, eh bien, c'est qu'il y a des gens qui font l'armée et d'autres qui n'y vont pas. Certains meurent et d'autres non. Il a noté que Netanyahou avait dit un jour « Ils donneront, ils recevront, ils ne donneront pas, ils ne recevront pas ». Pour Lapid, ceux qui s'enrôlent, qu'ils soient réguliers ou de réserve, devraient recevoir beaucoup plus de l'État. Ceux qui ne s'enrôlent pas, au sein de l'armée ou des services nationaux ne devraient rien recevoir. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a attaqué le ministre de la Défense, Yoav Gallant, à midi lors d'une réunion de la faction du sionisme religieux, disant qu'il se demandait pourquoi il n'exprimait pas de position similaire concernant la loi sur la circonscription, comme il l'avait présenté lors de la réforme juridique. Tout l'année dernière, ils nous ont crié que nous ne devions pas recourir à la force et que nous ne devions pas être unilatéraux, que nous avons besoin de dialogue, de négociation et de moi au sein de la maison du président de l'État et que nous ne devions pas écraser les minorités. C'est ce qu'a déclaré Smotrich. Eh bien, maintenant, est-ce que tout va bien? Est-ce que nous enverrons la police militaire? Le ministre de la Défense a arrêté la réforme parce qu'il a appelé au dialogue, aux négociations par crainte de conséquences unilatérales. Pourquoi, en tant que ministre de la Défense, n'organise pas un nouveau dialogue? C'est à lui de décider. Ce sont les mots de Bezalel Smotrich. On termine avec la météo. Demain, plus chaud que d'habitude pour la norme saisonnière dans l'après-midi jusqu'au soir. Léger risque de pluie locale, notamment dans le sud et dans l'est du pays. Les maximales Tel Aviv et Haïfa, 26 degrés. Jérusalem, 28. Tibériade, 34. Tzfat, 25. Ashdod, 28. Beersheva, 32. Et Eilat, 35 degrés. Il est 21h42 et c'est la fin de cette édition. On vous retrouve demain à partir de 15h pour votre prochain rendez-vous avec l'information. Merci de nous avoir suivis au micro. C'était Yael Bornstein en technique avec moi, Michael Olschwang. Shalom depuis Jérusalem.
חיפשתי את המילים שיעשו סדר בי סדר רציתי שתישארי אבל בסוף יצאת לי מהחדר נשארתי לבדי עומד חשבתי כל הלילה זר הפרחים שלך הלך לפח זה לא מגיע לי ולך יש לנו זו את זה לאן נגיע יש לנו זו את זה לאן נגיע
Littérature, société, culture, spectacle, le magazine de Cannes en français. Quoi de neuf, docteur Ariella ? Dans le magazine de ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de retrouver docteur Ariella. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Je suis ravie de vous avoir ce soir sur les ondes de Cannes en français. On entame le premier de nos épisodes du podcast que l'on a appelé « Quoi de neuf, docteur Ariella ?» comme vient de le dire le jingle. C'est un podcast qui va un petit peu nous expliquer tous ces réflexes dont on a besoin, toutes ces questions qu'on se pose au niveau médical. Avant de commencer, je rappelle que vous êtes urgentiste et directrice médicale du Magen David France. Donc ça a quand même son importance dans l'expertise et l'analyse que vous allez nous donner. On est ravis de vous avoir dans l'équipe maintenant de Cannes en français. Aujourd'hui, on va entamer donc cette série de podcasts avec l'hémorragie.
Voilà, c'est ça.
Alors, tout d'abord, est-ce que, en langage vulgarisé, l'hémorragie, c'est bien ce que je pense, c'est-à-dire un saignement ?
Alors en fait, l'hémorragie, c'est une perte de sang prolongée dans le temps et qui ne s'arrête pas spontanément. Si on prend étymologiquement, au niveau de la racine, c'est un mot latin qui s'appelle hémorragia, qui vient lui-même du grec héma pour le sang et ragia qui veut dire jaillir, faire éruption. Et en médecine, une hémorragie, c'est donc un écoulement de sang qui ne s'arrête pas spontanément.
D'accord, donc c'est pas comme une vulgaire petite plaie qui va coaguler rapidement.
Non.
D'accord, donc c'est quelque chose qui potentiellement est très dangereux.
Exactement, c'est schématiquement, pour essayer de représenter, si on pose un mouchoir en tissu sur une plaie et que le mouchoir s'imbibe et on voit le sang couler encore, ça s'appelle une hémorragie.
Ah d'accord, ok. Donc ça c'est déjà c'est un premier critère pour savoir si on parle d'un petit saignement ou d'une hémorragie.
Ok, exact.
D'accord. Alors est-ce qu'il y a différents types d'hémorragie ?
Alors en fait, il existe deux types d'hémorragie. Il y a l'hémorragie interne et l'hémorragie externe.
Ah, ouais.
L'hémorragie interne, c'est ce qui est le plus difficile à détecter parce qu'on ne le voit pas. C'est comme, mais on a quand même des signes indirects comme des bleus, des douleurs au ventre, des mal à la tête, quelqu'un qui est très pâle. Et puis on a l'hémorragie externe où là par contre c'est visible, parce qu'il va y avoir justement le sang qui jaillit, qui fait éruption. Mmh. C'est ce qu'on voit, ces écoulements de sang dont on parlait tout à l'heure et qui nous intéressent.
Donc quelque part, il vaut mieux avoir une hémorragie externe parce que là on le voit. Vous allez nous expliquer les gestes, mais on peut s'en occuper même des gens qui sont pas forcément des médecins, en tout cas essayer
Exactement.
De stopper l'hémorragie. Mais alors une hémorragie interne, on entend ça malheureusement dans certains cas de personnes qui ont été hospitalisées pour X raisons et qui tout d'un coup ont eu une hémorragie interne. C'est quelque chose d'assez, ça fait peur.
Ça fait peur, mais attention, une hémorragie, ça reste une hémorragie, c'est-à-dire qu'elle soit interne ou externe. Concrètement, ça peut amener à la mort dans les deux cas. C'est-à-dire que il peut y avoir quelqu'un qui va être très pâle et qui a une hémorragie dont on va chercher à l'intérieur parce qu'on n'a pas de saignement extériorisé. Et finalement, on va trouver la cause rapidement et on pourra faire un geste rapidement. Et puis, on peut aussi avoir une hémorragie extériorisée, fulgurante, sur une blessure, parce que on va en parler, mais ce qui compte aussi dans l'analyse de la blessure, c'est la localisation. Il y a des localisations au niveau du corps qui fait que si on est blessé, la mort peut arriver très rapidement.
Voilà, oui, j'imagine qu'on va parler de jambes, d'artères, etc. Mais vous parlez tout à l'heure des causes. Qu'est-ce qui cause une hémorragie ?
C'est un dysfonctionnement de l'appareil qui fait circuler le sang, c'est-à-dire l'appareil circulatoire.
Donc c'est l'artère ou la veine ?
Exactement. C'est des tuyaux, et à un moment donné, quelle qu'en soit la cause, il y a un tuyau qui va se rompre, qui va entraîner une saillie de sang, et que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et faudra trouver la cause.
D'accord. Alors, qu'est-ce que... Alors, je ne parle pas ici d'un paramédic du Magen David Adom, je ne parle pas d'un médecin chevronné, je ne parle pas d'un infirmier. Qu'est-ce que la personne lambda doit faire, peut faire, lorsqu'on est, dans un premier temps, lorsqu'on constate une hémorragie?
Alors, j'attendais un peu cette question parce qu'on me pose souvent cette question. Et en fait, la réponse, elle est extrêmement claire. C'est-à-dire que l'urgence, avant tout geste de secours, quel que soit le secours, c'est de se protéger et de vérifier qu'on est en sécurité. La base des premiers secours, c'est deux points. C'est la protection, donc ça peut être la protection de, dans la vie quotidienne, s'il y a un traumatisme qui se passe à l'intérieur de la maison, on prendra des exemples peut-être tout à l'heure, mais on fera attention à nos petits gestes de la vie quotidienne, mais à plus grande échelle, c'est tout ce que vous pouvez apprendre avec le picou d'Aoref et la protection civile qu'il peut y avoir autour. C'est très important, premièrement la protection, deuxièmement l'alerte. L'alerte, typiquement, MADA, on fait le 101 et... vous le savez, grâce aux premiers intervenants, ils sont sur place, ils arrivent sur place en moyenne en 4 minutes. Donc vraiment, s'il y a un message que j'aimerais que tout le monde entende, c'est avant de faire quoi que ce soit, premièrement, on réfléchit à est-ce que vous êtes en sécurité et est-ce que la situation fait que vous pouvez donner les premiers gestes.
Alors, je vais essayer de récapituler. Me retrouve, on va dire que je suis sur mon lieu de travail, donc quelque part dans un endroit qui est en sécurité, parce que je suis pas à l'air libre, je suis pas susceptible de rencontrer un terroriste ou de recevoir un missile sur la tête. Je vois une de mes collègues qui a une hémorragie, du coup externe. Elle saigne. Et là, la première réaction que je vais devoir avoir, c'est la mettre et me mettre à l'abri, dans cet ordre-là, tout d'abord elle, ensuite moi?
Ah non, c'est d'abord le secouriste.
Ah.
Vous allez pouvoir secourir un blessé si vous-même, vous êtes
d'accord.
En sécurité. C'est d'abord vous en sécurité.
Donc c'est le coup du masque à oxygène dans l'avion, hein, c'est ça?
Exactement, voilà, exactement. C'est dans un avion, on se met d'abord le masque et après on le met à ses enfants.
Donc je la mets à l'abri.
Exact.
Et là, téléphone tout de suite au Magen David Adom, j'ai rien à faire avant ça?
Ah, si. Pour l'hémorragie, on va en parler. Mais je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, vous êtes dans la cuisine avec votre amie Rebecca et vous êtes en train de faire à manger. Et elle a son grand couteau de cuisine qu'elle affectionne tout particulièrement et elle se coupe le doigt. OK? Première des choses à faire. C'est pour ça que je parle d'automatisme de protection. Mmh. Première des choses à faire, on retire le couteau. Il faut faire attention à ce que vous ne soyez pas blessé par le couteau et qu'il n'y ait pas de suraccident où elle va se blesser à nouveau avec son grand couteau de cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment d'abord la protection.
D'accord.
Et après le geste.
D'accord.
Et concrètement, pour les gestes, tout dépend de la localisation et de la nature de la blessure. Mais le process, ça va être toujours le même. C'est ce qu'on appelle les 3 A. C'est premièrement, on appuie. Deuxièmement, on allonge le blessé. Et troisièmement, on alerte. Okay ? Pour ce qui concerne d'appuyer, il s'agit là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, où on va sauter sur votre amie Rebecca, pas du tout. Si Rebecca, elle est bien, elle est consciente et que, entre guillemets, elle n'a que son doigt qui est coupé, elle va appuyer elle-même. Le blessé va lui-même appuyer. Il prend la paume de la main et va soi-même comprimer la plaie. Ça, c'est très important.
C'est un espèce de réflexe qu'on a?
Oui, en fait, on a toujours envie d'agir, d'aider. Et même si c'est notre instinct, on a envie d'aller aider l'autre, attention. Faut que ça soit cadré, faut que ça soit structuré. Aller toucher du sang, c'est pas anodin non plus. Donc, si la blessée peut elle-même comprimer sa plaie, elle va comprimer sa plaie elle-même. Et c'est très important. Ce premier A va être très important parce que il faut bien comprendre que l'objectif de la compression, c'est d'appuyer là où ça saigne et de façon à ce que ça soit permanent et suffisant jusqu'à ce que les secours arrivent. D'accord.
C'est un peu le principe du garrot, non?
Ah non, pas du tout. Le garrot... Ah.
On ne mélange pas tout, alors je m'excuse.
Non, mais pas du tout, pas du tout. C'est vraiment un réflexe. C'est pour ça que c'est bien qu'on prenne le temps de discuter de l'hémorragie, parce qu'il y a des idées comme ça qu'on peut avoir en tête. Concrètement, il y a une blessure qui est faite sur une localisation, sur un lieu, sur un membre où la blessée peut comprimer elle-même, elle va comprimer sa plaie. Maintenant, si c'est une localisation où elle ne peut pas y arriver toute seule, par exemple, vous êtes en VTT et votre amie Rebecca tombe et elle se blesse, ou bien elle a plusieurs blessures qui font qu'elle-même ne peut pas comprimer sa plaie. Évidemment, là, à ce moment-là, après avoir, encore une fois, vérifié que vous êtes en sécurité, par exemple, si c'est un accident de moto, vous éteignez le contact de la moto. Il faut toujours penser à la protection. Donc là, on revient à l'accident de VTT. C'est vous qui allez comprimer la plaie. Et à ce moment-là, vous essayez quand même de protéger vos mains. Donc, vraiment, idéalement, c'est avec des gants, mais sinon, vous prenez du plastique ou quelque chose pour protéger vos mains, pour ne pas être en contact direct avec le sang. Et vous prenez un tissu, si possible, propre. Et là, vous appuyez au niveau de la plaie. Toujours de la même façon, c'est-à-dire il faut que ça recouvre entièrement la plaie et que la compression soit permanente et suffisante. Et ça, c'est le premier point, c'est le premier A qui est l'appui. Est-ce que tout vous paraît clair, Yael ?
Tout me paraît très clair. Moi, j'aurais pas pensé qu'on couvre entièrement la plaie, mais je suis ravie. Voilà, vous voyez, on a tous appris quelque chose. Moi aussi, hein, peu importe le nombre de fois où on pourra m'apprendre ces choses-là, il y a toujours quelque chose qu'on apprend en plus. Donc, ok, on appuie, c'est le premier A.
C'est le premier A. Après, on allonge la blessée. Pourquoi on allonge la blessée ? C'est pour une raison pour deux raisons. Premièrement, parce que il faut garder quand même la quantité de sang qu'on a dans le corps, parce qu'à partir du moment où il y a une hémorragie, c'est-à-dire qu'il y a une saillie de sang qui va vers l'extérieur, forcément on a la quantité de sang qui diminue. Donc premièrement, il faut garder quand même au maximum le sang, et si on a allongé, y aura moins de sang qui sort. Premièrement. Deuxièmement, l'objectif aussi, pourquoi on veut à tout prix garder notre sang, c'est pour préserver ce qu'on appelle en médecine les organes nobles, c'est-à-dire le cœur, les poumons et le cerveau surtout. Et donc du coup, l'objectif, un, d'appuyer, donc d'arrêter le saignement, et deux, d'allonger, c'est quand bien même on a perdu du sang parce qu'il y a eu l'hémorragie, qu'on est en cours d'arrêter, au moins le cerveau, le cœur et les poumons peuvent continuer à fonctionner parce que le sang continue à circuler. Vous avez compris ?
D'accord, tout à fait, c'est très logique.
Ok, donc ça c'est le deuxième A, c'est allonger la victime. À partir du moment où on a allongé la victime, qu'on a bien comprimé, soit la victime, quand je dis victime, je suis désolée d'employer ce mot-là, c'est comme ça.
La patiente, la victime, oui, bien sûr, la victime du drame.
On appuie, on allonge. En fait, c'est très rapide comme geste, c'est-à-dire que quand on est face à la situation, là, on le détaille. Mais en fait, dans une situation comme je vous ai décrite, par exemple en VTT, votre amie, elle a un accident. Tout de suite, vous voyez s'il faut écarter ou pas le danger, à savoir le VTT. Vous voyez si oui ou non elle est capable de comprimer sa plaie. Elle ne veut pas comprimer la plaie. Vous, concrètement, ça prend une demi-seconde. Vous voyez la situation, vous êtes en danger, pas en danger. Est-ce que deuxièmement, c'est moi qui appuie ou c'est elle qui va appuyer sur la plaie. Et à partir du moment où vous avez on va dire le saignement est en cours contenu, vous donnez l'alerte à ce moment-là. C'est le troisième A. Et à ce moment-là, vous êtes soit en train d'appuyer, soit votre amie le fait elle-même, et puis vous appelez Mada et vous dites voilà, je suis en VTT, vous donnez. Évidemment, les consignes très claires, parce que ça aussi, les gens sont un peu perdus dans la nature du message d'alerte. Mais généralement, il faut faire simple, il faut garder son calme, faut donner des informations bien, bien précises. Je suis avec un adulte, il est conscient, il n'est pas conscient, il respire pas, il a une plaie. Et vous avez le numéro de téléphone. L'avantage avec Mada, c'est que vous pouvez être géolocalisé. Ils vous demandent si vous voulez être géolocalisé, et après ils peuvent vous guider même en visio. Mm-hmm. Donc vraiment le message d'alerte est très important, et surtout j'ai envie de vous dire que faut pas oublier un élément essentiel quand vous appelez et que vous donnez l'alerte. C'est de ne pas raccrocher. Il ne faut surtout pas oublier de ne pas raccrocher et d'attendre vraiment la consigne de bon, maintenant, soit il y a les premiers intervenants qui sont arrivés, ouais. Soit ils vous disent bon, bah, c'est bon, maintenant la situation est réglée, au revoir. Donc, ça, c'est vraiment les trois points qu'il faut retenir. C'est le premier à l'appui, le deuxième point d'être allongé et le troisième point qui est l'alerte. Mais imaginons, je me permets de poursuivre, imaginons que vous devez vous libérer pour aller donner l'alerte. Et que que votre amie, elle ne peut pas elle-même comprimer. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle, et je pense que vous avez déjà entendu parler de ce mot, un pansement compressif. Le pansement compressif, c'est ce qui va faire le relais de votre main. Et donc, on prend un tissu, pareil, on recouvre la plaie, et on fait un bandage avec un tissu que vous trouverez. Il faut quand même que ça soit assez...
Le plus propre possible, en tout cas.
Voilà,
ouais. L'idée, c'est pas non plus de commencer à lui faire une infection en plus de ça. Quoi.
Voilà. Il faut vraiment être au maximum. On ne peut pas être en stérile quand on est en plein milieu d'un pioule et qu'il y a un accident qui arrive. Mais on essaye de faire au maximum. Et le maximum, c'est on prend un tissu qui est propre, on recouvre la plaie, on fait une bande. Et pareil que la main, il faut que la compression, elle soit suffisante et permanente.